Monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, monsieur le recteur de l'État, monsieur le directeur général, distingués invités en mon nom et grâce à notre collègue, chers parents, chers collègues et confrères de l'enseignement, chers récipiendaires, comme vous l'avez compris, à l'occasion de la première sortie, la première promotion de licence professionnelle de l'ESDAC, le directeur général du fondateur de l'établissement a décidé de donner comme nom de baptême à cette promotion le nom de Joseph Charles. Et il me fait l'honneur de me demander pour avoir côtoyé au quotidien pendant de longues années ce parrain mythique, de parler de lui à ses filleuls. Je me sens confronté dans ce exercice qui m'est demandé par la présence ici d'un compagnon dans l'entourage très précieux de Joseph Charles Bumba. Je cite M. Christophe Bienzoff, le DG du Palais des Congrès. Le personnage de Joseph Charles Bumba était immense et à facettes multiples. J'ai de lui, en ma qualité de biographe officiel, 4 manuscrits volumineux qui attendent d'être publiés. Je ne peux donc vous donner de lui qu'une épure, une esquisse à grands traits qui vous donne ensuite l'envie de compléter le portrait. L'éclat et la prestance de Joseph Charles Bumba étaient tels que la légende s'était déjà emparée de lui de son vivant. Il parlait, disait-on, comme un livre, en des phrases presque sibyllines, que tout le monde réclamait, déclamait, sans toujours en maîtriser de sens. Il avait le langage châtier, dense, étincelant, voire incantatoire. Médusé, ses auditeurs buvaient ses discours et se repaissaient de ses pépites de pensée, qui s'empressaient d'aller répéter dans leur fief pour se faire valoir. Beaucoup de ceux qui l'ont croisé, côtoyé ou servi ou fréquenté, revendiquent une filiation politique, intellectuelle ou idéologique avec lui. On pourrait le comparer au roi Salomon, petit de sagesse, dont chaque phrase était un aphorisme, un proverbe ou une énigme. Mais de façon plus calme et respectueuse, une très large partie de l'opinion le considérait tout simplement comme un visionnaire, quelqu'un qui aura vécu 50 ans avant son époque, tellement ses idées étaient en avance. humaniste, philosophe, penseur, homme d'éthique et de conviction, Joseph Charles Duba était en fait ce qu'on appelle un esprit de synthèse, qui ne se contente pas d'une science pointue, mais qui a butiné à tant de choses qu'il est capable de générer une civilisation, de donner naissance à un monde nouveau. Dans cette foule d'opinions, plus ou moins flatteuses, plus ou moins justes, je vous invite à suivre plus attentivement le regard de Jacques Famondon, ci-dessus professeur et ministre d'État, un de ses collaborateurs au comité central, qui le voit comme un esthète au carrefour de la pensée et de l'action. Un esthète au carrefour de la pensée et de l'action. Oui, si l'on veut résumer l'immense Joseph Charles Duba en deux mots, il suffira de dire qu'il était un homme de pensée et d'action, inséparément. Il avait fait de ce diptyque une devise. Il la tenait lui-même du philosophe Henri Bergson, qui disait « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. » Et il appliquera ce principe avec brio et réussite dans son champ de compétences principales, la politique. Au point où, lorsque le président national du RDPC lui confie le comité central du RDPC, il y crée son journal qu'il baptise avec la collaboration de Nelson, l'action. C'était une démarcation révolutionnaire d'avec la tradition antérieure des discours intermittents. Notre pensée, expliquait-il patiemment à ses collaborateurs, est congénitale à l'action. La pensée pour nous n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen pour accéder à l'action. La pensée doit précéder et l'action doit suivre. Le but de la pensée, c'est l'action. S'il appliquait lui-même cette critique dans le champ politique, il soumettait par la critique tous les autres secteurs de la vie aux acteurs de la vie ou acteurs de la société aux justiques pensées action. Il interrogeait autour de lui toutes les forces de la communauté, la religion par exemple. De la religion, dira-t-il, on attend la lumière du monde, l'éclairage de ce grand mystère de la vie et de l'aventure humaine. Mais les religions elles-mêmes semblent parfois égarées. Le monde est peut-être à refaire, disait-il. L'élite. Il en plaît beaucoup à l'élite. Que fait-elle, l'élite? Qu'est-ce qu'elle sait de la pensée? Que fait-elle? L'élite, d'après lui, divague. Elle déraille beaucoup. Elle fourvoie parfois le peuple. L'élite a échoué. Elle est responsable de tous nos égarements. L'école, c'est nous là, l'école, l'université. Où fait l'école? Qu'a-t-elle découvert? Qu'enseigne-t-elle? 50 années d'école n'ont rien donné en Afrique. Le problème de développement qui était notre menu en 1960 se trouve aggravé aujourd'hui sous le nom de pauvreté. C'est ahurissant l'incapacité qu'a notre école à résoudre les problèmes les plus élémentaires. C'est le déficit de la pensée qui explique tous les problèmes du Cameroun et du monde. Et puis il devait quand même, il comprenait. Le drame de l'école, c'est que c'est le petit cerveau de l'homme qui doit gérer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et deux infinis dans un cerveau fini. Il nous faut, disait-il, des pensées plus élevées, des fusées traçantes qui balisent le chemin. Cela suppose de l'audace, du courage, de l'imagination pour un nouvel avenir. Il est bon que chaque homme soit une luciole pour éclairer la nuit. Il nous faut la lumière partout. Voilà pour un portrait. Mesdames et messieurs, si nous considérons que l'exhortation à l'audace, au courage, à l'inventivité est le lettre que Joseph Charles Lumumba nous laisse comme programme de vie, alors la première chose que je devais faire au sortir de ce bref rappel, c'est de féliciter le docteur Joseph Lumumba, dont la fondation de l'École supérieure des techniques avancées du développement ouvre l'ère testamentaire de ceux qui veulent suivre la voie tracée par le visionnaire. Car nous sommes bien nombreux à nous être abreuvés à cette source de l'exaltation, de l'excellence et au courage, mais très peu au décompte à avoir engagé des actions définitives dans ce sens. Cette grande réalisation, très ambitieuse, n'est-ce pas, est porteur de tous les espoirs de notre génération. Et maintenant, mes chers récipiendaires, c'est pour vous tous les suivants. Au nom de baptême, vous savez qu'un nom de baptême, selon l'usage qu'on en fait, selon les usages qu'on en fait dans les universités, dans l'armée ou dans notre corporation, un nom de baptême est très proche du sens de l'Église. À savoir qu'il s'agit de confier des ouailles à un parent spirituel dont ces derniers doivent s'inspirer pour tracer leur chemin dans la société. Vous avez, en la personne de Joseph Charles Lumumba, une charge pathologique d'un poids sans égal. Dans la vision de votre parent, le parchemin qu'on va vous remettre tout à l'heure ne doit pas être une fin en soi. Il est un moyen pour accéder à l'action. Et l'action dont il est question ici, ce n'est pas le gain-pain. Ce n'est pas le gain-pain. Ce n'est pas la recherche fébrile de l'emploi et l'assujettissement servile au butin de paye. Vous n'avez pas étudier les techniques avancées du développement pour aller faire la queue dans les villes de demandeurs d'emploi. La bannière de votre école vous situe à la vanguarde de toutes les stratégies de développement humain. Un ingénieur est fait pour résoudre les problèmes de la société et non pour que la société résolve ses problèmes. Vous allez faire la différence entre les études classiques d'hier, fabriquant des chercheurs d'emploi, les études du monde de demain. Vous êtes les chanceux d'une nouvelle ère de l'école, résolument tournée vers le développement.